Super content de le retrouver après une semaine d'absence. Lui est toujours là, c'est moi qui avais fait relâche. Jacques Déhaye est avec nous. Salut Jacques!
Ben écoute, c'est des vacances méritées probablement, alors j'espère que tu as passé du bon temps.
Absolument, absolument. Et Jacques, on entame ça cette semaine sans tarder avec une baisse des vols de véhicules parce que c'était assez préoccupant dans les dernières années.
Ben oui, on a parlé souvent des vols de voitures, les modèles les plus volés, puis c'était devenu quasiment une coutume à tous les 6 mois, on répertoriait les modèles les plus demandés, les plus en demande par les voleurs. Eh ben c'est le groupement des assureurs automobiles qui à tous les ans, eux révèlent le nombre de réclamations pour vol entier de véhicules. Et en 2025, parce que c'est toujours un an après, évidemment, ou 6 mois après, pour 2025, on a enregistré une diminution de 31,5% par rapport à l'année précédente. Fait que ça, c'est quand même le niveau le plus bas observé depuis 2016. Oui. Alors, on parle de 4559 réclamations l'année dernière. Et le coût des réclamations pour le vol entier d'un véhicule, on appelle ça le vol entier, c'est-à-dire vous sortez le matin de chez vous puis le véhicule n'est plus là, s'est élevé à 23 624 piastres en 2025, tandis qu'en baisse de 8,2% par rapport à 2024. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle concernant les vols de voitures. Cependant, le groupement des assureurs automobiles avait une mauvaise nouvelle aussi annoncée. C'est que les données de 2025 ont mis en lumière une autre réalité, c'est que les réclamations pour dommages découlant d'une collision, c'est-à-dire le montant des réclamations et le montant de l'argent payé pour des réclamations après une collision, ils sont élevés à 8638 $ de moyenne en 2025. Et ça, c'est 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2015, où la même statistique mentionnait que ça coûtait 4083 $. Alors, ça veut dire que les pièces automobiles, les réclamations sont chères. Pourquoi? Il y a, entre autres, l'arrivée des véhicules électriques depuis ce temps-là. Les véhicules électriques, ça coûte cher à réparer. Et il y a aussi les technologies embarquées dans les autos. Je donne un exemple. Vous frappez dans votre partie avant. Là, vous avez des capteurs. Vous avez des caméras. Vous avez des lidars qui sont là pour aider pour le régulateur de vitesse adaptatif. Tout ça, là, ça coûte une fortune à réparer parce que ça se répare pas, premièrement. Il faut changer. Je vais te donner un exemple sur une Nissan Z. Oui. OK, 2025, un phare avant, juste le phare, coûte 2600 $.
Ben, un simple pare-brise, c'est plus achetable.
Ben, exactement. Si vous n'êtes pas assuré, là, un pare-brise, c'est effrayant. Alors, écoutez, c'est la mauvaise nouvelle et c'est ce qui va probablement faire remonter tranquillement, pas vite, mais les primes d'assurance qu'on devra verser parce que les véhicules coûtent cher à réparer.
Ah non, c'est l'évidence. Puis effectivement, on parle même de d'enlever certaines technologies sur certains véhicules. Donc, ça dit tout.
C'est parce que, tu sais, il y a des technologies, d'après moi, sont inutiles. Mais exact. Ça, on pourrait en parler longtemps.
Exactement.
On pourra se faire une édition spéciale pour ça.
Puis ouais. quelqu'un qui a appris à conduire sur une Chevrolet Impala 67 qui conduit toujours aujourd'hui, il y aurait peut-être une petite mise à niveau qui pourrait
probablement, être probablement, probablement. Oui, tout à fait.
Jacques, on parle d'un retour potentiel du Honda Cross Tour. Je suis très curieux de t'entendre là-dessus parce que, vois-tu, je m'en suis procuré une 2013 tout récemment.
OK. Bon, ben écoute, la Honda Cross Tour, c'est un véhicule qui a été mis sur le marché pendant 3 ans par Honda. Ça n'a pas connu le succès qu'on espérait.
Zéro.
À ce moment-là. Alors, c'est un véhicule qui s'achète dans le véhicule d'occasion aujourd'hui à très bas prix.
Ouais.
J'espère que c'est ton cas.
Oui, tout à fait. 13 000 $ en tout et pour tout, 117 000 km, très satisfait.
Ben écoute, puis c'est un véhicule quand même qui est très fiable. Mais là, on parle de ramener cette Cross Tour avec la plateforme de la Honda Accord. C'est-à-dire qu'on présenterait pour la prochaine génération de la Honda Accord, une version à haillons, si on veut, mais avec une garde au sol surélevée.
Oui.
Et ça ramènerait la Crosstour dans le giron de Honda. Je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle.
Okay.
Ce qu'on veut faire chez Honda, c'est qu'on voudrait concurrencer la Subaru Outback, qui connaît beaucoup de succès, mais puis ça serait en version 4 roues motrices en plus de ça, une version hybride.
Moi, c'est cet hiver que je vais la découvrir, la mienne, justement, avec les 4 roues motrices, là, ça m'intrigue beaucoup.
C'est ça, exactement. Alors, tu sais, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, surtout que les concessionnaires, dans ce temps-ci, les concessionnaires de la marque sont un petit peu désespérés parce que on annonce des retards pour des changements de modèle, l'arrêt de production du Honda Ridgeline. Là, on vient d'annoncer cette semaine que la Honda Civic SI, on va la mettre sur pause parce qu'on va attendre une prochaine génération qui va arriver plus tard, on ne sait pas quand. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de boîte manuelle chez Honda du tout. C'est pas facile là, chez Honda actuellement. Alors, c'est pour ça que l'arrivée, le retour du Crosstour, moi, je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Surtout que ça va permettre à une clientèle qui ne veut pas de VUS, mais qui n'est pas non plus à la recherche d'une berline, bien ça, il me semble que c'est un beau compromis. Là. Ça, tu le vois, tu le vis actuellement.
C'est exactement ça que je recherchais. Je n'aime pas particulièrement la conduite de véhicules utilitaires sport. Mon père en a possédé et n'en possède encore aujourd'hui. Puis là, avec ce retour-là, bien évidemment, ça fait en sorte que le modèle va réapparaître sur nos routes. Mais le simple fait que c'est un véhicule excessivement rare, ça fait tourner les têtes. Tu reçois des commentaires assez élogieux. Moi, je m'en sers dans les festivals de musique. Je dors là-dedans, je mesure 6 pieds, je suis très confortable. Et ça permet aussi un certain luxe, si on veut. Tu sais, c'est des beaux sièges en cuir, il y a toit ouvrant, c'est bien équipé.
Exactement.
Et puis, non, sérieusement, je l'aime beaucoup. Et pour conclure aujourd'hui, Jacques, on s'en va du côté de BMW qui annonce un cabriolet électrique.
Ben écoute, la BMW i4 qui est déjà au catalogue chez BMW, ben là on envisage d'en faire une version cabriolet, ce qui ferait que ce serait probablement le premier véhicule, la première berline électrique cabriolet sur le marché. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, je pense qu'il y a un marché important pour ça. On parle de 2028. Pour le lancement du véhicule, alors, comme modèle 2029 peut-être, là, ou modèle 2028 qu'on va présenter en 2027, c'est-à-dire déjà l'an prochain. Alors, ça veut dire que c'est déjà dans les cartons, c'est déjà en développement. Et ça va être une belle histoire à suivre parce qu'une belle BMW cabriolet i4, tout électrique. Moi, je pense que ça va être tentant pour beaucoup de monde, beaucoup de monde.
Et dans quelle fourchette de prix ça peut se situer, ça, à ton avis?
Oh, d'après moi, ça va se vendre 80-90 000, c'est sûr. Là. Ça sera pas donné. Écoute, c'est pas une voiture nécessairement abordable. Puis vois-tu, le seul cabriolet électrique actuellement qui est commercialisé, c'est la Maserati Gran Cabrio Folgore. C'est une voiture qui vient d'arriver, qui vient de présenter. Mais là, on parle de 206 000 piastres.
Ouais.
Américain. Oui. OK? Alors, c'est 250, 260 000 chez nous. Bon, là, ça, c'est un autre paire de manches. Mais pour avoir un cabriolet quand même relativement abordable, je dis bien relativement en lettres majuscules, caractère gras, ben, la BMW, ça peut être une belle alternative.
Et on est toujours en semaine de vacances de la construction. On a du temps devant nous, Jacques. J'aimerais que tu nous parles de ton implication au Grand Prix de Trois-Rivières qui s'amène à grands pas les 7, 8 et 9 août prochains.
Ben écoute, le Grand Prix de Trois-Rivières, moi, c'est dans mon patelin. Moi, je suis un trifluvien pur et dur. Ça fait partie de mon ADN parce que j'étais là en 1967 lors de la première présentation du Grand Prix. J'ai fait à peu près tous les comités. J'en ai été le président en 2004 de cet événement-là. Mais déjà, depuis c'est ma 11e année, je suis impliqué dans une série de sports automobiles. J'étais avec Nissan auparavant, avec la Coupe Nissan Micra. Il y a eu la Coupe Nissan Sentra. Nissan, les ententes se sont terminées. Nissan a tiré sa révérence. mais on a décidé de continuer ce championnat-là. Moi et un partenaire qui a déjà 3 concessions automobiles, dont une Nissan, qui voulait absolument continuer. Et là, on a inséré les Nissan Z 2025-2026 au sein de la gamme. Alors, on a 2 catégories et on se prépare pour participer au Grand Prix Trois-Rivières le week-end prochain. Alors, je suis en plein préparatif, 24 pilotes, dont un Américain qui va descendre de Floride parce qu'on il avait tenté l'expérience l'an dernier, il avait adoré ça. Et là, il a communiqué avec moi, puis il a dit, écoute, j'aimerais ça retourner. Ben, j'ai dit, faut que je te trouve une auto, je te trouve une voiture, puis je te mets en contact avec un possible préparateur. Puis ça s'est bien fait, puis il va arriver de Miami la semaine prochaine. Alors, c'est un bel événement. Le Grand Prix Trois-Rivières, c'est un événement convivial qui est près des gens. J'ai rien contre la Formule 1, mais la Formule 1, c'est un gros happening où on s'installe dans les gradins, puis on voit passer les voitures. Il n'y a pas beaucoup de séries de soutien. Tandis qu'à Trois-Rivières, il y a beaucoup de séries qui vont participer au Grand Prix. Je vous le dis, là, amenez-vous, allez vous chercher du lunch, puis montez ça dans les gradins. Parce que ça n'arrête jamais. À tous les 10 minutes, il y a une nouvelle série qui embarque sur la piste. Il y a une course de soir. Il y a le vendredi. Le vendredi, c'est gratuit. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bel événement. Et qui est là depuis 1967. Ça en fait quand même l'un des plus vieux Grands Prix sur circuit routier en Amérique du Nord, là.
Tout à fait,
alors,
tout à fait.
Alors, c'est un bel événement, puis c'est pas loin de Sorel. Hein.
Exact, mais non, c'est
bien, là.
Tout à fait.
Et on peut faire des allers-retours.
Notre prochaine chronique, ça va être le 6 août, jeudi 6 août, donc à la veille de cette présente édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, on se reparle d'ici là, puis merci beaucoup encore.
Je serai en direct des enclos en pleine préparation du Grand Prix.
Ben voilà, tu le disais pas, je le disais.
OK.
Salut.
OK, bye-bye.